Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me situent pas, même si c'est pas moi qui interviens, rassurez-vous, je suis le pasteur de cette communauté. Voilà. Et donc, c'est Charles Leroux qui interviendra à l'instant, qui lui est assis là. On se connaît depuis très longtemps, d'ailleurs. Voilà. Enfin, je sais plus combien de temps, mais au moins 30 ans. Voilà. Donc, l'idée, donc, Charles va faire part un petit peu de son témoignage. Enfin, voilà, comme vous voyez. Vous avez vu déjà le thème. Donc, il en fera part, je pense, environ, j'en sais rien, 40-45 minutes. Et puis après, il y aura un temps d'échange, de réponse à vos questions. Voilà. Et puis, on essaie de s'arrêter. On n'a pas forcément d'horaire, mais autour de 15h30. Mais sachez que si vous voulez partir à 14h15, parce qu'à 14h15, vous avez rendez-vous, mais voilà. Ou à tout autre moment que 14h15, qui était un exemple parmi les possibilités entre maintenant et 15h30. Voilà. Donc sentez-vous libre de partir si vous avez besoin. Sachez aussi pour les personnes non familières que juste en sortant à droite puis à gauche, il y a des toilettes qui sont là-bas. Voilà. Et puis d'autre part, si vous êtes intéressé pour, enfin je le redirai à la fin, mais sachez que si vous étiez intéressé pour continuer l'échange, Charles et moi on sera disponible à la fin. Mais même si vous deviez partir, vous pouvez aussi laisser vos coordonnées s'il y a deux fonds, si vous vouliez une Bible, si vous vouliez laisser vos coordonnées pour guider, ben vous pouvez le faire. Il y a aussi un dépliant avec les coordonnées d'église en cas de besoin, vous pouvez le prendre aussi. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais prévu de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas prévu de dire et qui serait important que je dise? Moi, je l'ai pas dit, c'est ça. Alors, Charles, bienvenue, et puis à toi la parole.
Merci, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, c'est pour moi une joie de me retrouver avec vous et de partager un peu ce parcours de vie qui est résumé ici, hein, du bouddhisme à Jésus-Christ. Itinéraire spirituel d'un chercheur en physique. Alors, je m'appelle Charles Leroux, j'habite à Grenoble, j'ai 60 ans, je suis marié à Anne, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle avait des responsabilités dans notre église locale au niveau de l'enseignement des enfants, et puis, pardon, qui est l'église l'église protestante évangélique du Drac, donc Courberia, juste avant que le tram ne passe sur le Drac. Et puis nous avons trois enfants, Mathieu, Elisabeth et Pauline, qui sont en études ou qui travaillent. Mathieu est au Canada, Elisabeth est à Lyon. Elle est aujourd'hui, je crois, elle est infirmière. Et puis Pauline est à Montpellier. Alors personnellement, je travaille au CEA de Grenoble, commissariat à l'énergie atomique. Je ne travaille pas du tout dans l'atomique ou le nucléaire. En fait, le CEA est un secteur semi-public de recherche, où il y a pas mal de secteurs de recherche. Je travaille en microélectronique, dans une fonction d'expertise et d'encadrement de doctorants, dans le domaine de la caractérisation électrique et de son lien avec la physique des matériaux. C'est-à-dire que, pour dire les choses plus simples... On branche sur les circuits et les matériaux des fils électriques et un composant, un matériau, c'est comme un immeuble où il y a plein de monde, des électrons, des trous, qui ont chacun leur particularité. Et par le biais de la caractérisation électrique, eh bien, on essaye de mener un peu une enquête et de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. Donc on est simplement posté à regarder ce qui sort par les fenêtres et puis... aussi par la porte d'entrée. Et avec ça, on essaye de reconstituer un petit peu toute la vie qui est à l'intérieur de l'immeuble. Et donc, c'est une image un peu pour dire la caractérisation électrique. Donc, on applique des courants, on mesure des tensions, etc. Des fois, on met un peu de champ magnétique, des fois, on peut mettre un peu de lumière. Et on essaye de comprendre le matériau qui remplit cette fonction électrique, en fait. Et ça, bah, c'est un lien avec les technologues pour leur dire vous avez fait ça, mais vous avez voulu faire ça, mais en fait vous avez plutôt fait ça. Donc c'est une manière d'analyser le matériau, parce que tous ces matériaux, tous ces composants, ils ont une fonction électrique. C'est mon téléphone portable là, mais dans un téléphone portable, vous devez avoir une cinquantaine de circuits intégrés à peu près, hein, venant de différents fabricants qui réalisent toutes ces fonctions. pour faire un téléphone portable, j'ouvre la parenthèse, la referme, il faut, je crois, 200 kilos de matériaux. Donc, ça montre aussi qu'il faut peut-être pas jeter trop vite nos téléphones portables, hein. Parce que au niveau des mines et tout ça, ça paye, voilà, ça a un impact écologique. Et voilà, et donc je travaille dans ce domaine-là. Alors mon intention cet après-midi, c'est de revenir avec vous sur ce parcours de vie, non pas pour placer le focus sur ma petite personne, parce que bon, ça comporte pas trop d'intérêt, mais pour essayer d'illustrer un petit peu trois domaines de vie et de connaissances, le bouddhisme, la foi chrétienne et la science physique. Est-ce qu'il y a des domaines, des interactions entre ces domaines-là, des voies de passage? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a tendance à cloisonner les choses, donc voilà. Peut-on être chrétien et physicien? C'est une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Et puis, disons que ces trois secteurs de connaissances, je les ai vécus ou je les vis. Et puis, je vais présenter brièvement cet itinéraire spirituel. Et puis, on pourra avoir un temps de questions, réponses et d'échanges. Et je voudrais vous inviter à poursuivre aussi ce temps. Je suis vraiment à l'aise d'être accueilli par Laurent, parce que je trouve que en recherche, dans le métier de chercheur, ce qui est important en fait, c'est l'honnêteté de la recherche et aussi la liberté dans la recherche. Alors, personnellement, j'encadre des doctorants, et donc dans le travail d'encadrant, c'est important de bien accompagner les chercheurs pour des fois pas qu'ils se perdent, mais aussi pour respecter leur démarche, parce que c'est d'eux que va venir le travail. Et nous, au travail, nous attendons les fruits de leur recherche, mais il faut leur donner un bon contexte. Je dirais qu'avec Laurent, depuis que je le connais, c'est quelqu'un qui est très attaché à la liberté de conscience et au respect de chacun. Et je dirais que un peu dans cet après-midi, eh bien, c'est aussi pour encourager tout un chacun à continuer ses recherches et dans le but de découvrir des réponses à nos questions. Alors, j'en viens maintenant à mon pour. J'avais une faute. Vous voyez, ça, c'est CEA. Alors, je me demande des fois si on est dans la microlique ou dans l'immobilier. Hein, parce que... Donc ça, c'est tous les bâtiments de Minatec. Je travaille dans ces bâtiments. Je vais peut-être prendre comme ça. Si je prends le micro à la main, j'éviterai de parler loin du micro comme ça. Donc ça, c'est les bâtiments du CEBA. On a pas mal de salles blanches, 500 amphithéâtres. Et sur le domaine du polygone scientifique, à Grenoble, ça se situe entre le Drac et l'Isère, et dans cette zone, dans cette presqu'île, on l'appelle la presqu'île scientifique, où on a pas mal de centres scientifiques. Donc il y a le CEA, il y a Merlin-Gérin qui a ses centres de recherche là, il y a le Schneider, anciennement Schneider plutôt. Il y a le synchrotron, il y a un réacteur qui est, je mangeais le nom, je crois que c'est l'Institut Laue-Langevin. Ouais. L'Institut Laue-Langevin, le MBL, ST Microélectronique, donc pas mal de recherches en physique qui se font. Il y a aussi le CNRS avec l'Institut Louis-Nel, un centre aussi en astrophysique. Alors ça, c'est Minatec, c'est là où je travaille justement, la Minatec, voilà. Alors ça va être plus facile pour... Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, ça, c'est pour revenir un petit peu sur mon histoire. Je suis né en 1962 à Guer, en Bretagne, donc à mi-chemin entre Rennes et Vannes, dans une région, et puis à une époque où le catholicisme avait une forte présence religieuse et sociale. Dans les années 50, l'évêque de Vannes pouvait encore dire de sa région qu'elle était exclusivement chrétienne. La déchristianisation qui se manifestait dans certaines régions de France était à peine discernable. On parle aujourd'hui, je me perds un peu dans les. On parle aujourd'hui de fin de la chrétienté. Et il est vrai que nous sommes quelque part dans une autre époque. Et si aujourd'hui, en se déclarant chrétien, dans certains milieux, en particulier dans le milieu scientifique, on est regardé des fois de manière un peu surprenante. En Bretagne, autour de 1950, il fallait beaucoup de caractère pour s'afficher non catholique. Ma maman me raconte que dans son enfance, ils habitaient à 10 km de là, à Mourdeau-Bretagne, à la messe du dimanche, il y avait bien quelques fortes têtes qui étaient au café d'en face, mais la plupart étaient à l'église. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que tous étaient convaincus. Et elle me raconte aussi que pendant la messe, donc c'était à l'époque avant Vatican II, le prêtre célébrait le dos à l'assemblée. Et il arrivait au cours de la messe que des fois le prêtre s'arrête, qu'ils descendent au fond de l'église, qu'ils sermonnent les messieurs qui discutaient entre eux et qui parlaient trop fort, et qu'ils remontaient pour continuer sa célébration. Donc, pratiquement tout le monde était à l'église, c'était le régime de la chrétienté, tel qu'on l'appelle sociologiquement. Beaucoup de cœurs étaient attachés au Dieu chrétien, mais pas tous, et Dieu sait le niveau de foi de chacun. Pour en revenir à mon enfance, donc j'ai bénéficié de l'enseignement systématique qui était donné dans mon village aux enfants, aussi bien de l'école publique que de l'école privée. Moi j'étais à l'école publique, mais on avait le catéchisme tous les jeudis d'abord, puis c'était le mercredi ensuite. Et j'ai grandi dans l'évidence du Dieu des chrétiens, de son existence. Et dimanche après dimanche, je me retrouvais dans cette église. J'ai voulu mettre l'intérieur parce que c'est quand même des murs que j'ai fréquentés quand même un certain nombre de fois. J'ai assisté à la messe, je pense, plus de 500 fois quand même au long de mon enfance. Et voilà, je m'y retrouvais dimanche après dimanche. Pas obligatoire, par habitude d'une certaine manière, pas par obligation parce que mes parents ne fréquentaient pas trop la messe. J'avais une tante qui m'encourageait bien dans la pratique religieuse, mais mes parents ne fréquentaient pas trop la messe. Et des messes, j'appréciais les prédications, ça parlait à ma réflexion. Je m'ennuyais plutôt lors des prières eucharistiques et quand nous récitions le credo, je me souviens, j'avais quelques réticences à la fin par rapport à une déclaration qu'on disait à la fin, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je ne vais pas faire un commentaire théologique de cette phrase. Je crois qu'on peut dire que même des chrétiens évangéliques peuvent dire je crois en l'Église une sainte catholique apostolique. Tout dépend du sens qu'on met derrière les mots. Mais c'est vrai que si je réagissais, c'était plus, je pense, émotionnellement. L'Église catholique de mon enfance se présentait comme une mère, mais une mère à mon goût un peu trop maternelle, voire étouffante, et trop présente. Et quant à Dieu, j'y croyais, mais il était si loin. Je le craignais, je ne le connaissais pas. Je le priais le soir dans mon lit, mais comme j'avais appris à le faire dès mon plus jeune âge, mais je récitais le Notre Père, voilà. Mais qu'est-ce qui se passait? C'était une attitude, mais c'était un effort que j'essayais de porter, auquel j'étais attaché, sincèrement attaché, mais qui manquait de sens et de relation avec Dieu. J'aimerais lire avec vous un texte, justement, le texte de cette prière. On le trouve dans l'Évangile selon Matthieu. C'est une parole de Jésus de Nazareth. Et Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Comment lisons-nous ce texte? Il me semble qu'il y a au moins trois manières différentes de lire un tel texte. Il y a d'abord une lecture purement informelle. Bien oui, c'est la prière que Jésus de Nazareth, un juif, qui a vécu il y a à peu près 2000 ans, a laissée à ses disciples. On peut aussi en avoir une lecture religieuse, c'est-à-dire c'est une prière qui nous semble belle, qui s'adresse à Dieu, et on s'efforce de la répéter parce qu'on se dit que c'est bien. Et puis, il y a une troisième forme, la lecture que j'ai aujourd'hui de ce texte. Des mots que Dieu me donne pour lui parler. Un texte. Un dialogue qui me permet de dire à Dieu, que j'appelle Père, l'essentiel de ce qui me tient à cœur et de ce qui lui tient à cœur. Non plus une récitation, mais un dialogue. Un texte qui parle et par lequel je lui parle. Chaque phrase devient alors lourde de sens et peut ouvrir sur une prière qui s'élabore au fil des différentes demandes qui s'y présentent. Lorsque je priais alors le Notre Père, j'avais pas l'impression d'entendre de réponse. La prière, elle était comme envoyée au ciel, du moins je l'espérais, mais Dieu entendait-il ? Mystère. J'ai finalement suivi le parcours d'un jeune catholique, croyant, baptisé nourrisson, communion privée, puis communion solennelle, confirmation. Je participais aussi à des rencontres de jeunes catholiques au lycée et au collège puis au lycée. Et je me souviens d'un livre que j'avais emprunté au prêtre qui nous accompagnait à l'aumônerie du lycée, du collège. Et on avait des rencontres aussi au presbytère à Guerre, pour ceux qui étaient plus motivés. Je crois que j'en faisais partie. J'ai perdu la foi. J'avais vu ce livre dans les rayons et je m'y étais retrouvé un petit peu. C'est comme s'il y avait une résonance avec ce livre. En fait, je cherchais la foi, mais je ne la trouvais pas. Et finalement, cette soif de spiritualité, je n'arrivais pas à l'étancher dans l'église de mon enfance. Les prêtres de cette église catholique de mon enfance m'étaient bien sympathiques. J'avais des contacts, certains d'entre eux, mais ma religion ressemblait plus à une coquille vide. Et c'est à l'adolescence que j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. À peu près, je dirais, ouais, au niveau des classes de quatrième, quelque chose comme ça. D'abord, sur un chemin peu orthodoxe et pas du tout sérieux. Aimant lire, je m'intéressais aux collections. Il y avait une librairie dans notre petit village. Et puis, il y avait ce type de livres que je vous ai mis là. Et qui sont tout sauf sérieux. On pourrait classer ça dans le New Age aujourd'hui, c'est pas du tout du bouddhisme, c'est une arnaque spirituelle plutôt. J'ai découvert les écrits de cet homme qui était en fait un Anglais, qui se faisait passer pour la réincarnation d'un Tibétain et qui avait vécu soi-disant tout un tas d'aventures extraordinaires. Et je rêvais en lisant ces livres-là, qui étaient finalement assez accessibles à la lecture. Il s'agissait en fait d'une imposture, comme je vous ai dit, qui est bien énoncée aujourd'hui. Mais c'est ainsi que progressivement, je me familiarisais avec les spiritualités orientales. Durant mes études supérieures, gagnant en indépendance, j'ai abandonné la pratique catholique. J'ai découvert la pratique du vin et de la bière, comme pas mal d'étudiants, à Rennes en particulier. Et puis, donc, avec mon intérêt grandissant pour l'esprit oriental, ma vie étudiante assez débridée, Dieu, qui, bien qu'il était lointain, me paraissait comme une évidence, est devenu évanescent, voire inexistant. Et le christianisme m'est apparu de plus en plus comme une religion réservée aux petits-enfants et à leurs grands-mères. Pas vraiment une chose sérieuse. J'étais même devenu largement moqueur à l'égard du christianisme. Il y a un chant qu'on chantait après l'Eucharistie et qui disait « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa victoire » ou « de sa parole » ou « de sa parole ». Chant dont aujourd'hui je perçois le sens, mais qui devait alors m'échapper ou que j'avais renié. Et dans les rues de Rennes, les soirs de beuverie étudiantine, ce chant devenait pour amuser la galerie « Je mets mon espoir dans le pinard, je suis sûr de ma cirrhose ». Donc vous sentez un petit peu le rejet de la religion de mon enfance dans ce chant, et puis aussi le rejet d'une recherche auprès de Dieu. Je devenais plus sérieux dans mes lectures bouddhistes, essayant de trouver ensuite des ouvrages plus sérieux, ceux de Lobsangpa, mais j'avais énormément de difficultés. J'avais fait l'acquisition de certains de ces livres, à les comprendre et à les lire. Aujourd'hui, je peux les relire et comprendre ce qu'il veut dire, mais à l'époque, ça m'était très difficile. Cela au moins pour deux raisons. D'une part, c'était des mots, des concepts qui étaient trop éloignés de ma culture d'origine, et les références me manquaient. Et puis aussi, j'essayais de les lire de manière analytique, avec ma pensée occidentale. Or, le bouddhisme ne prétend pas à une connaissance rationnelle de notre monde, mais plutôt à une connaissance supérieure, ultime, qui va au-delà du monde et de ses apparences qu'il juge trompeuses. Alors, malgré toutes ces difficultés à essayer d'y comprendre un peu plus dans le bouddhisme, je poursuivais mes recherches. J'ai fait du yoga pendant plus d'un an à Lyon, et c'est en arrivant à Grenoble pour faire ma thèse que je suis tombé sur une publicité dans un magazine d'escalade, parce que je faisais de l'escalade aussi, c'est pour ça que j'étais content d'être à Grenoble, au milieu des Alpes. Et donc j'ai été au premier festival du Tibet en juillet 85. Donc j'ai commencé ma thèse, mon stage de thèse en mars 85, et en juillet 85 j'étais à ce premier festival du Tibet à Digne. Alors Digne, c'est là où Alexandra David-Neill, une orientaliste, première femme occidentale qui est pénétrée à Lhasa en 1912, a passé les dernières années de sa vie. Elle a vécu en Orient plus de 40 ans. Elle a rencontré le 13e Dalai Lama, et plusieurs autorités orientales. On la voit ici dans différents contextes. Là, vous la voyez ici à la fin de ses jours. C'est une femme qui avait pas mal de caractère. Je me souviens avoir rencontré sa secrétaire, puisqu'elle était encore là, Madame Perronnet, je crois. Elle appelait sa secrétaire Tortue. Et c'était une dame qui avait vu beaucoup de choses, au caractère bien trempé. Et donc, dans ce... je me suis retrouvé là et pour un séminaire d'une semaine. Et là, cette fois, j'étais en contact avec, je dirais, les personnes compétentes au niveau du bouddhisme. Et j'ai suivi des enseignements de Dakpo Rinpoche, que vous voyez ici, Alors, il était plus jeune que ça à cette époque-là. Et qui était un des premiers Tibétains à arriver à Paris. Il a enseigné à l'Institut des langues orientales et puis il a aussi fondé un institut Gyandengming près de Paris. Et donc là, j'étais en contact avec les bonnes personnes et j'avais les moyens de pouvoir continuer à chercher dans cette foi qui me passionnait et qui pénétrait de plus en plus ma vision du monde. Parallèlement, alors que je commençais mon doctorat à Grenoble, je me suis retrouvé dans le bureau d'un chrétien assez discret et fort aimable qui s'appelle Michel Guérin. J'avais donc tout proche de moi quelqu'un qui pouvait répondre à mes questions sur le christianisme, et même si cette religion m'apparaissait comme dépassée, j'appréciais la douceur et l'humilité de Michel. Alors d'intérêt en intérêt, j'ai pu assister à des réunions d'église évangélique, d'abord pour aller voir ce que vivaient ces gens-là, essayer de les observer, et j'y ai rencontré des gens prétendant connaître Dieu, fort convaincus et témoignant d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, ce qui m'interpellait quand même assez fortement. L'idée d'un Dieu personnel m'était alors complètement inconcevable. À cause de ce parcours dans le bouddhisme, je voyais des gens qui croyaient en un Dieu personnel, mais je me souviens d'une question que j'avais posée à une des filles de Michel à l'époque. Mais vous croyez vraiment dans un Dieu personnel? C'était quelque chose, là on devait être au mois d'octobre, novembre 85, qui pour moi était complètement en dehors de ma pensée. Et c'était pour moi un mystère. C'était quelque chose d'inconcevable. Et puis j'ai observé aussi ce qui se vivait dans les églises, la fraternité qui s'expérimentait, et ça m'a interpellé. Parallèlement à cela, donc à cet automne 85, j'étais à la fois dans mes recherches au bouddhisme, je crois que c'est aux vacances de la Toussaint ou autour, que je suis retourné à un autre séminaire à Digne, et puis je commençais à fréquenter les églises évangéliques et à découvrir leur foi. Michel et Lucette m'invitaient assez régulièrement chez eux le dimanche, et c'était le 15 décembre 1985, je l'ai noté, ils m'ont offert une Bible. Et c'était marqué sur la Bible qu'ils m'ont offerte, que j'ai toujours. Alors j'ai toujours d'abord refusé cette... Je n'osais pas accepter. Je disais, mais je m'en achèterais moi-même. Et puis d'ailleurs, on m'en avait déjà offert une. Un prêtre de mon enfance m'avait offert une Bible qui n'était pas une Bible complète, ça s'appelait la Bible de Mélan. Mais, et c'était des extraits de la Bible avec des explications à côté. Mais finalement, des Bibles, j'avais eu l'occasion d'en avoir ici ou là, d'y être confronté, de faire la lecture. Mais cette Bible-là, elle était vraiment nouvelle. Elle était nouvelle, non pas dans le sens de ce qui était écrit était nouveau, mais dans le sens du rapport que j'ai eu avec cette Bible-là. Non pas qu'elle était magique, mais mes rapports à la Bible, jusque-là, c'était des rapports... un peu d'ailleurs comme mes livres avec le bouddhisme, qui étaient faits d'incompréhension et de perplexité. Alors, je pouvais avoir une lecture émerveillée de certains textes. Il y avait un texte qui me fascinait, c'était le début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, quand je lisais ce texte-là, je me disais, ce texte-là, il est magnifique, j'y comprends rien. Mais il est magnifique. Et c'était un peu comme si je pouvais faire des lectures dans les textes bouddhistes. Je me disais, là, il doit y avoir quelque chose de profond, d'intelligent, je finirais bien par le comprendre. Et j'étais fasciné par ce texte, mais finalement, il me restait extérieur. Et puis il y avait un autre genre de texte que là, je comprenais bien. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, va... arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux que tu entres borgne dans le royaume de Dieu plutôt que tout ton corps ne soit jeté dans le feu de la géhenne. Alors ce texte-là, je le comprenais très bien, Et généralement, si j'avais commencé à lire l'évangile de Matthieu, j'allais pas plus loin que le chapitre 5, parce que je me disais, bon, ça ne m'intéresse pas. Et ça a été mon attitude avec la Bible jusqu'à cet automne 85. Et puis donc, ils m'ont offert cette Bible. Je pense qu'ils ont prié aussi en me l'offrant. Ils ont continué à prier après. Et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et cette fois, son sens m'apparaissait. Il m'interpellait. J'y ai découvert une parole qui m'instruisait et qui s'adressait à moi, personnellement. C'était une parole qui me parlait. C'était comme si quelqu'un me parlait. En 2 ou 3 mois, j'ai lu tout le Nouveau Testament, en partant de l'Évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Cette lecture me parlait d'un Dieu personnel qui s'adressait à moi. Cela allait à l'encontre de mes études dans le bouddhisme, qui m'enseignaient qu'un tel Dieu personnel, souverain, transcendant, ne pouvait être qu'une illusion de mon esprit. Je creusais le texte, allant de questions, et j'allais poser les questions. J'étais en contact avec 2 églises évangéliques à ce moment-là, et une autre où j'avais été invité sur un film, et j'avais été voir. Et donc, de cela, j'avais été aussi à une de leurs rencontres bibliques. Et donc, j'arrivais le mercredi soir avec mes questions, faisant suite à la lecture. Alors, il me disait, mais je comprends pas, tu les trouves toutes. Et toutes les contradictions apparentes du texte m'interpellaient et j'allais leur poser la question. Mais j'avançais sur ce texte et ils me parlaient. Alors, le cheminement durant le premier semestre de l'année 86 n'a pas été simple, linéaire. De plus en plus, la question s'est posée à moi. Jésus était-il ce qu'il disait être? Le chemin, la vérité et la vie. À côté de ces affirmations qui sont étonnantes et qui pourraient paraître présomptueuses, il y a là une vie remarquable. Y a-t-il vie plus remarquable que celle du Christ? Et puis je voyais aussi beaucoup de personnes qui disaient qu'ils avaient une relation personnelle avec lui. Et l'incrédulité dans laquelle j'étais tombé à cette période étudiante était de plus en plus bousculée. Elle était confrontée, entre autres, à la réalité de nombreux témoignages. Allais-je continuer à croire ce que je voyais? Et d'ailleurs, c'est pas vraiment croire ce que l'on voit. C'est seulement voir. Et puis finalement, en y réfléchissant bien, tous croient. Mais il y a une foi des athées, il y a une foi des scientifiques, il y a une foi des bouddhistes, il y a une foi des chrétiens. Il y a une foi des scientifiques. En physique, je ne remets pas en cause à chaque fois les lois de la physique. J'ai confiance pour avancer dans les avancées de la recherche et je me base sur certaines lois et certains calculs et certains modèles. Au travers de tous ces témoignages, témoignages de la Bible, témoignages des gens de l'Église, Jésus me posait une question difficile. Qui dis-tu que je suis? Et j'ai fini par croire ce qu'il disait être, ce que j'entendais de lui dans l'Écriture. J'ai commencé à le prier, et cette fois, il y avait bien quelqu'un dans la salle. Je savais, quand je priais, qu'il y avait quelqu'un. Pour m'aider à grandir dans ma faible foi, et aussi, je pense, pour m'aider à traverser cette période de conviction pendant un certain nombre d'années dans l'impossibilité d'un Dieu personnel, la présence de Dieu m'était sensible quasi physiquement. C'est-à-dire que je sentais Dieu. Je découvrais une présence. Et cette présence était personnelle parce que quand je faisais quelque chose dont je savais que ça lui déplaisait, cette présence partait. Et quand je lui demandais pardon, cette présence revenait. Alors, je me suis engagé et je me suis fait baptiser le 28 juin 1986 pour dire mon choix de le reconnaître comme Dieu et Sauveur et mon désir d'être son disciples. Alors, de 17 à 24 ans, j'ai beaucoup cherché et dans beaucoup de directions différentes, ce qui suppose aussi des retournements. Mais maintenant, ça fait plus de 34 ans, oui, c'est ça à peu près, 36 ans, que je suis le Seigneur Jésus-Christ et je dirais qu'il est devenu la colonne vertébrale de ma vie. Je travaille au CEA, j'essaie d'y vivre ma foi, ce qui n'est pas toujours évident. On expérimente des fois une certaine frustration dans le désintérêt que peuvent vivre nos contemporains vis-à-vis des questions spirituelles. Mais j'essaye d'avancer et je dirais que, en dépit de la difficulté que représente le fait de témoigner de sa foi dans un monde qui souvent l'ignore et de la frustration que ça génère, la foi chrétienne est pour moi un grand facteur de stabilisation et une source de bonheur profond. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné une famille, une charmante épouse, des enfants qui sont très tolérants envers leur père, un cadre de vie, des perspectives d'engagement dans l'Église, une vie faite de relations avec Dieu, mais aussi de relations avec des personnes. Et tout cela, j'en ai la conviction, c'est le cadeau de Dieu, c'est le don de Dieu. Depuis toujours, j'ai été assez curieux. Ah, ça, c'était les textes dont je vous parlais. Et je pense que l'apôtre Pierre parle ici, il dit des chrétiens que chacun a reçu un don. Et je crois que j'ai reçu le don de la curiosité. Et c'est quelque chose qui me dépasse un peu, mais une soif depuis tout petit, même avant ma conversion, de connaître et de un goût, une appétence pour la connaissance et pour la recherche. Alors, mon métier de chercheur rentre un peu en connaissance avec ça. J'ai une formation d'ingénieur, mais je crois que je me reconnais plus dans le métier de chercheur et de physicien. Et d'ailleurs, il y a plusieurs possibilités de travail au CEA. Et je me suis plutôt spécialisé dans le domaine de l'expertise et aussi, ce qui était peut-être un rêve d'enfant, d'accompagner des chercheurs. Donc j'encadre des doctorants. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît bien. Parce que c'est... Mon père était artisan peintre et c'est un peu la même chose. Hein. Il avait des apprentis. Et donc là, il y avait tout ce travail d'apprentissage où on transmet quelque part. Et donc il a formé pas mal d'apprentis en peinture qui sont certains se sont mis à leur compte. Et puis moi c'est un peu la même chose dans le domaine de la recherche et c'est quelque chose que j'apprécie de pouvoir former des chercheurs. Et puis je continue à chercher dans le domaine différents domaines, théologie, histoire des religions, histoire des sciences aussi. Et disons qu'aujourd'hui, à côté de mon métier de chercheur, j'essaye d'approfondir justement la question des religions. Je me suis engagé donc dans différents débats avec des bouddhistes, des philosophes. Et c'est quelque chose qui me plaît, qui m'interpelle. Après ma conversion, j'ai mis sous le placard un peu, dans le placard, tous mes livres sur le bouddhiste. Et puis je suis revenu 20 ans plus tard à peu près, encouragé par un cours qu'on avait suivi dans les cours décentralisés de faculté de théologie qu'il y avait à Lyon, un cours qui était sur les religions orientales. Et c'est là que j'ai commencé à retravailler mon parcours, et ce qui m'a conduit justement à approfondir les convictions qui sont au centre du bouddhisme, de l'hindouisme. Et depuis, je continue à chercher un peu et à me passionner pour cette histoire des religions et aussi l'histoire des sciences. Et je suis aussi engagé, et ça, c'est, je dirais, la vie que Dieu propose est riche. Et dans le parcours de vie qu'il m'a proposé, il m'a invité à me retrouver m'investir en Afrique, au Tchad. Et depuis le premier voyage, c'était en 1995. Et là, j'ai aussi découvert une autre culture, par le biais aussi des églises au Tchad, une fenêtre un peu aussi sur les religions traditionnelles, parce qu'on en parle aussi. Et c'est une joie de pouvoir s'engager dans ces différentes voies. Donc voilà un petit peu un parcours, un chemin de vie assez rapide. J'ai beaucoup parlé et on voulait laisser maintenant un temps pour les questions que les uns et les autres pourraient avoir suite à ce qui vient d'être partagé. Et puis au-delà, je ne sais pas qui vous êtes, mais je voudrais vous inviter tout un chacun à poursuivre votre chemin de chercheur de Dieu. Hein, il y a une très belle phrase dans l'Évangile qui dit « Celui qui cherche trouve, à celui qui cherche trouvera, frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. » C'est une promesse que le Christ fait, et donc qui cherche trouvera.
La parole est à vous. Enfin, si vous voulez prendre la parole, je vous invite à lever la main, je viendrai avec le micro.
Merci pour ce très beau témoignage. Oui. Je suis un petit peu fabriqué comme vous, mais avec moins d'intensité. Qu'est-ce qui vous reste du bouddhisme maintenant ? Quelle valeur, au fond, le bouddhisme peut ajouter à votre christianisme ?
Alors, le bouddhisme est vraiment à l'opposé du christianisme. Les religions sont vraiment différentes. Ce qui me reste du bouddhisme, c'est que je dirais que si, quand je cherchais dans le bouddhisme, j'avais le sentiment de ne pas tant comprendre que cela, ce qui s'y passait, aujourd'hui, et avec du recul, j'apprécie de pouvoir lire un peu l'espérance bouddhiste. J'écris un petit livre, justement, où, un regard chrétien sur le bouddhisme et la quête de spiritualité qu'il y a dans le bouddhisme, les attentes qu'il y a dans le bouddhisme, des attentes de salut, des attentes de délivrance. Récemment, je dialoguais avec un lama, on appelle ça des forums veritas, et quelqu'un de très sympathique, et c'est un plaisir de dialoguer avec ces chercheurs de Dieu, même si dans le bouddhisme il n'y a pas de Dieu. Le bouddhisme va plus loin que l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a un Dieu universel, mais qui est impersonnel. Dans le bouddhisme, il n'y a même pas de Dieu. Alors, je dirais que ce que je retiens peut-être, et je suis en train de retravailler ces questions, on m'a sollicité pour donner un cours sur les religions orientales, dont je travaille ces questions des spiritualités orientales. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est leur quête de Dieu. Une quête inassouvie, quelque part, je dirais, pour moi une impasse. Je pense que quelque part, d'une certaine manière, le bouddhisme, là j'utiliserai des mots forts, m'apparaît comme un suicide spirituel, dans le sens où il vise à éteindre la personne. Mais peut-être aussi alors une valeur positive, parce que je crois aussi quand on veut être en dialogue avec les différentes religions, c'est important de discerner les éléments positifs qu'on voit dans ces différentes religions. Je crois que dans les religions orientales, il y a un sens de l'immanence. C'est-à-dire de la présence du divin dans tous les domaines de notre existence. Et ce sens de l'immanence, dans la chrétienté, il était très présent, me semble-t-il, il y a longtemps, plusieurs siècles, au Moyen-Âge par exemple. Et depuis la Renaissance et les Lumières, on a perdu ce sens de l'immanence. Et même si les chrétiens ne sont pas des déistes, c'est-à-dire conçoivent Dieu comme un grand horloger qui a lancé le monde et puis qui ne s'en occupe plus, ce sens de l'immanence nous échappe un peu dans notre culture occidentale. Et là, récemment, je lisais par exemple un livre sur le Saint-Esprit d'un pasteur et d'un théologien indien. Et là, on voit justement cette résonance. De par sa culture, il est beaucoup plus attentif au fait que Dieu est présent aujourd'hui, partout. Chose que l'Évangile parle, par exemple. Quand Jésus dit que pas un passereau ne tombe sans que mon Père ne l'a voulu, qu'il tisse les fleurs des champs, qu'il tisse l'enfant dans le sein de la mère. Mais on a tellement analysé les choses qu'on a perdu ce sens de l'immanence. Et les religions orientales sont beaucoup plus attentives à ce sens de la présence de divin dans le quotidien, mais avec une confusion certaine.
Une dernière petite question là-dessus. Est-ce que Lanza del Vasto représente pour vous un bon modèle?
Alors j'avoue que je le connais peu. Bon. Oui, je connais peu.
D'accord, excusez-moi. Ouais. Ouais.
Je cause dans le micro. Quelle différence vous faites entre la contemplation et l'immanence?
Alors, dans le bouddhisme, il y a la méditation. Dans le christianisme, je dirais qu'il y a la contemplation. Dans la contemplation chrétienne, on reconnaît Dieu derrière les choses. C'est une présence de Dieu, on parlait d'immanence, c'est-à-dire Dieu est présent, mais sans être les choses elles-mêmes. Il y a à la fois une proximité, mais une dissonance et une distance. Et le Dieu des judéo-chrétiens est à la fois immanent et transcendant. La question, c'est la différence entre contemplation et immanence. Alors, ce serait plutôt la contemplation, la conscience du fait que Dieu est présent en toute chose devrait nous pousser à la contemplation. Mais la contemplation peut être aussi consécutive à la lecture de l'Écriture. C'est une attitude où on se repose pour apprécier les choses. Mais on ne s'éteint pas. Le nirvana, c'est l'extinction.
Là, comme ça. Voilà. J'ai deux questions. La première, nous avons une voisine qui est chinoise et nous l'avons parfois invitée à lire les écritures avec nous. Mais pour elle, c'est une histoire, quoi. Mais elle dit, ça me dit rien, ça me touche pas. Mmh. Je sais pas si tu aurais, je sais pas comment. Bon, il y a la prière, bien sûr, mais. Alors, elle est beaucoup entreprise par les témoins de Jéhovah, qui sont beaucoup plus autoritaires, je peux vous en dire, mais ça la touche pas non plus. Et elle disait, elle vient de Chine, donc quand elle était en Chine, elle a été une année entière dans une église, parce qu'elle avait la famille qui était devenue chrétien. elle a envie d'être chrétienne, on lui fait envie. Mais elle dit, ça ne me touche pas, j'arrive pas. Mmh. Est-ce que c'est lié à sa... Alors c'est encore un peu différent, la Chine, parce que c'est pas bouddhiste non plus.
Non, pardon.
C'est pas, il y a pas, c'est pas bouddhiste la Chine.
Ça peut être bouddhiste.
Oui.
La Chine est différente de l'Inde. J'ouvre la parenthèse. La Chine est différente de l'Inde. Il y a l'Himalaya qui les sépare. Et en Chine, on va retrouver le bouddhisme a pénétré comme religion étrangère. Mais il y a aussi les religions d'origine, c'est le confucianisme et le taoïsme. Le confucianisme est une religion très pratique qui respecte l'ordre social. Et le taoïsme est plus une religion spéculative, un peu comme le bouddhisme et l'hindouisme, qui une espèce de monisme un peu. Je pense qu'il faut, par rapport à une personne qui est en recherche, comme ça, il faut poser la question de ce qu'elle recherche. Les Chinois, il me semble, en regardant un petit peu, en observant aussi sur les spiritualités chinoises et indiennes, les Indiens sont très religieux et très conscients du divin, après avec une confusion sur le divin. Et les Chinois sont beaucoup plus pragmatiques. Et il faut que ça marche. D'ailleurs, on le voit même dans le domaine de l'économie. Je pense qu'il faut se mettre à l'écoute des besoins et de l'attente de la personne et de ce qu'elle cherche, de ce que Dieu lui a fait chercher. Parce que finalement, ce que vous dites, c'est qu'elle cherche, il y a une soif, mais elle n'arrive pas à l'exprimer de ce qu'elle cherche. Il faut l'aider à expliciter cela. Et j'aurais tendance à dire qu'elle découvre Jésus comme un ami, comme une aide, comme un secours dans les textes. Et... Ouais.
Alors, j'en reviens à ma deuxième question. Comment dire ? Dans mon arrière-plan ecclésial, mais je pense que c'est peut-être le cas de plusieurs ici, chez les protestants évangéliques, chez les protestants même, souvent on ne pense pas que Dieu puisse nous parler directement, mais il nous parle à travers l'Écriture. Mmh. Et du coup, on est des fois de très bons étudiants d'Écriture, on étudie beaucoup les Écritures, et puis après on en déduit ce que nous devons faire. Mmh. Alors est-ce que ta fréquentation d'autres cultures, est-ce qu'il n'y a pas aussi, le Seigneur peut nous parler directement, une parole qui vient à nous, suite à une lecture, mais qui n'est pas, on reçoit quelque chose qui s'impose à nous, enfin qu'on reçoit, pas quelque chose qui est le résultat, comme un cadeau et pas quelque chose qui est le résultat d'une réflexion élaborée intellectuellement. Bon, je ne sais pas si c'est une question.
Alors, je me suis converti dans une église pentecôtiste, Assemblée de Dieu, que j'ai quitté pour différentes raisons, mais que j'ai fréquenté pendant à peu près 7 ans. Et donc là, il y avait une insistance sur, à la différence des églises évangéliques non charismatiques, sur le fait que Dieu peut parler, se révéler aujourd'hui, pas seulement par les Écritures. Il me semble que on gagnerait à retravailler la théologie du Saint-Esprit. Et la théologie de la Trinité tout court. Et que c'est pas que pour les théologiens, mais c'est pour la vie. Il y a Élisabeth de la Trinité qui commence sa prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Et on voit que c'est du vécu, quoi. C'est pas quelque chose des concepts, des idées, c'est du vécu. Je me souviens, j'enseignais des jeunes sur la Trinité, Et il me disait, il y en a un qui me disait, pour moi, la Trinité, c'est shampoing. Il voulait dire par là qu'il y comprenait rien, quoi. Et que ça lui prenait les cheveux, quoi. ça lui arrachait les cheveux, voilà. Et c'est, c'était sa manière à lui de dire les choses. Et la Trinité, normalement, ça devrait pas être compliqué. Même si ça nous parle de notre Dieu, mais Dieu est notre Père, il nous aime, il a envoyé son Fils. Pardon ? Il a envoyé son Fils qui manifeste. Son Fils n'a pas commencé quand il l'a envoyé. C'est son Fils éternel qui jaillit de lui, qui l'engendre éternellement. C'est la parole de celui qui parle et qui rend tout à celui qui parle. Et puis il y a l'Esprit qui est très discret dans l'Écriture et très présent. Et il serait dommage de limiter la part du Saint-Esprit aux manifestations exceptionnelles, surnaturelles. Le Saint-Esprit est là à la conception de Jésus. Et il dit que c'est lui qui fait le travail. L'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et c'est pour cela que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est présent dans la création et dans ses créatures et dans ses enfants. Et il fait, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, dit l'apôtre Paul, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si véritablement je dis Jésus-Christ est Seigneur, c'est pas l'effet d'un raisonnement, c'est pas l'effet d'un choix, c'est un renouvellement de la personne qui rentre dans une nouvelle dimension, et ça, c'est possible que par le Saint-Esprit. Et donc, je crois que le Saint-Esprit ne cesse de travailler en nous et chez les chrétiens évangéliques non charismatiques. Mais peut-être qu'on n'est pas assez attentif à son action. Alors, avec Laurent, on a beaucoup apprécié les cours de profontologie, en particulier d'Henri Blocher, qui n'est pas particulièrement évangélique, charismatique. Mais je me souviens d'Henri Blocher qui disait, on lui avait posé des questions sur science, sur le dialogue entre science et entre foi et psychologie, et il expliquait comment il s'était intéressé à cela. Et il y discernait une action de Dieu dans sa vie. Et je crois que c'est important d'être attentif à tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc de lui demander de nous guider, de nous inspirer, parce que finalement, il ne veut faire que ça. Et quelque part, la vie à laquelle il nous appelle, c'est une vie où la Trinité, nous sommes appelés à être fils à l'image du Fils, où justement l'Esprit nous rend fils. C'est l'Esprit qui veut prier en nous. Et ça ne veut pas dire que nous arrêtons d'être nous-mêmes. Mais c'est une transformation où nous laissons Dieu faire son œuvre en nous. Parce que la créature ne peut pas être sans le Créateur. Et c'est le problème du péché, c'est notre indépendance. Et des fois, dans nos raisonnements, nous sommes prisonniers de notre indépendance. Donc, il faut rester humble, mais attentif à ce que Dieu... Moi, je sais que dans mes domaines de recherche, j'essaye d'avoir du flair, mais de dire, Seigneur, inspire-moi sur ce que... les directions où je pourrais aller chercher. Souvent, oui.
Autre question? Oui, Jacqueline, j'arrive.
Je vais essayer. On parle très bien dans le Nouveau Testament de l'amour inconditionnel de Dieu et de Jésus, et c'est bien expliqué. Ce même Dieu, c'est le même dans l'Ancien Testament. Mmh. C'est le même. Et Dieu dit à Josué, tu passeras les hommes, les femmes et les enfants au fil de l'épée. Mmh. Et bien d'autres horreurs, à un point que certaines mamans chrétiennes ne donnent pas la Bible d'enfants à leurs enfants. Mmh. Et j'en entends de plus en plus. Mmh. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, des horreurs dont on ne peut même pas nommer, des persécutions, des viols, des incestes, des choses de plus en plus abominables et nombreuses, et des gens qui prient, et ce Dieu inconditionnellement aimant, où est-il? Que répondre? Mmh. Tout en ne faisant pas une pirouette spirituelle biblique. Mmh. Mmh. Et de plus en plus, on entend des choses comme ça. Et de plus en plus de livres apparaissent récents sur les croyances, je ne sais pas comment ça s'appelle, les croyances de nos jours, où ils expliquent un petit peu si notre cœur est positif, si on pense des bonnes choses, on va guérir des maladies, des émotions. Voilà, tout ça par rapport à notre Dieu inconditionnel de la Bible. Mmh. Que faire de tout ça? Que répondre?
Alors j'entends deux questions dans la question. Il y en a peut-être plus. J'entends la deuxième question à la fin. Le rapport entre le Dieu de la Bible et la spiritualité de nos contemporains qui parle de plus en plus de Dieu. Ce matin, on parlait justement dans l'analyse de Chantal Delsol dans La fin de la chrétienté, de ce retour du paganisme. Donc en fait, il semble bien, quand on y regarde de plus près, que pratiquement, bon, l'athéisme c'est bien gentil, mais ça remplit pas l'âme, et qu'il y a des besoins spirituels, et on le voit dans les recherches, ça se manifeste beaucoup dans les nouvelles dans les thérapies alternatives, soit du corps, soit de l'âme, aussi la psychologie, mais vous voyez, développement de la méditation de pleine conscience, médecine holistique, etc. Et dans toutes ces démarches, il y a une soif, une manifestation de spiritualité, mais qui me semble être finalement la spiritualité qu'on trouve en dehors de la Bible. La spiritualité de l'Orient n'est pas extraordinaire. C'est une spiritualité humaine. C'est une spiritualité sans révélation. Donc c'est l'homme qui cherche Dieu et qui souvent finalement, c'est le constat, le discernement qu'exerce l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, et il dit dans cet Épître aux Romains, que plutôt que d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Et donc, les religions païennes ont tendance finalement à exprimer leur besoin d'adoration dans la création plutôt que dans le Créateur. On va parler d'énergie, on va parler de tout un tas de choses, mais on ne va pas essayer de remonter jusqu'à ce Créateur dont on dit soit qu'il n'existe pas, soit il est inaccessible. Alors, à la différence du Dieu des chrétiens, si on regarde comment Jésus se présente, il loue son Père à un moment. Et il dit, mais je te remercie mon Père, de ce que tu n'as pas révélé ces choses aux sages et aux intelligents, mais à ceux qui sont comme des enfants. Donc, le Dieu qui se révèle dans la simplicité, et il se révèle pour qui veut bien l'entendre. Après, il y a la complexité de la révélation, et aussi la complexité de notre monde. Il y a un verset qui dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est un sage, un vieux sage, qui en a vu beaucoup, et qui dit « Dieu a fait les voies de l'homme droite, mais les hommes y ont trouvé beaucoup de détours. » Et on se rend compte, de temps à autre, que l'homme peut être mauvais, mais on le discerne pas tant que ça. Et cette notion qu'on trouve dans l'Écriture, qu'il y a un péché originel et un péché qui est ancré dans la nature de l'homme, on le sait, mais le discerne-t-on dans toute son ampleur et dans toute son horreur, et dans toutes ses conséquences, et dans toute sa complexité? Si on prend au sérieux Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que... Si Dieu est ce qu'il est, Dieu, et si à un moment il est nécessaire de dire qu'il a tant aimé et qu'il a véritablement donné son Fils, pas un homme, son Fils, c'est qu'il y a véritablement un problème. Alors, je reviens un peu à reculons sur la première question. Comment se fait-il que Dieu ordonne des génocides, appelons un chat, à un moment donné? Alors, je ne dirais pas que ça continue, mais qu'aujourd'hui, il y ait aussi une perpétuité. C'est que nous sommes dans un monde qui est marqué par le mal. La révélation, elle s'inscrit dans une histoire. Nous vivons une période violente, mais il y a des périodes qui sont encore plus violentes. Je dirais qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est violent, mais par rapport à ce que nos aïeux ont vécu entre 39 et 45, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. Et qu'on n'est pas au même niveau de barbarie. Et donc la barbarie, elle se manifeste à certains moments de l'histoire de l'humanité, et Dieu doit faire avec la barbarie. Alors pourquoi il doit faire avec la barbarie? Jésus ne répond pas tant que ça. Il nous dit, si vous saisissez pas le salut, vous périrez vous aussi. Il ne propose pas de réponse et d'explication au mal, mais il met les mains dans le cambouis. Et il vient lui-même. À l'époque où donc il est demandé d'exterminer un peuple, il faut savoir que les choses étaient très compliquées. C'était une époque où on sacrifiait les petits enfants pour stabiliser les maisons. C'est-à-dire que quand vous construisiez une maison, souvent, vous alliez tuer un ou deux petits, et puis vous mettiez les ossements dans les fondations de la maison, et comme ça, c'était censé donner la bénédiction des dieux sur la maison. En matière de religion, Dieu c'est la vie, la sexualité c'est la vie, et donc la meilleure manière de célébrer Dieu, c'est la prostitution sacrée. Et donc c'est dans cette culture-là qu'on se trouve à l'époque de Josué. Et le risque pour le peuple d'Israël, c'était qu'il soit contaminé. Et d'ailleurs, il sera contaminé par cette culture-là. Donc, il y a cette demande qui a été faite à ce moment-là. Moi, je la comprends comme ça. C'est une demande de Dieu. Cette mention de génocide à cette époque-là ne justifie en aucun cas des génocides. Je dirais que après, quand on regarde, on est vraiment au début de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Mais oui, c'est mentionné. Maintenant, je vais revenir sur un autre épisode où il y a ce type de violence. C'est l'exil à Babylone. Et là, il se passe des choses innommables. Et Dieu dit qu'il est responsable. C'est-à-dire que son peuple est tellement perverti qu'il va devoir l'exiler. Et il va se servir de peuple méchant. On trouve ça dans le prophète Habacuc. Habacuc n'y comprend rien. Il rentre en discussion avec Dieu. Et dans le prophète Jérémie, c'est un livre qui est très très intéressant à lire, le prophète Jérémie. Dieu met sa parole en Jérémie. Il y a comme une identification entre Dieu et Jérémie. Et Dieu annonce des choses terribles. Mais vous savez, vous lisez dans le livre de Jérémie, il y a des moments, on ne sait pas si c'est Jérémie qui pleure ou si c'est Dieu qui pleure. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu met les mains dans le cambouis dans notre monde pécheur. Mais la réalité du péché, elle est odieuse. C'est pas une balade à la campagne que Jésus est venu faire pour délivrer l'humanité de ses péchés. C'est pas une mise en scène, c'est pas du théâtre. C'est pas pour rien qu'une humanité aussi exceptionnelle était terrifiée à l'idée de ce qu'elle devait endurer. L'humanité de Jésus.
Oui. Je ne sais pas comment est le micro, là.
Oui, vous m'entendez, oui. À propos de ça, quel est votre rapport au texte, à la textualité même? Quand on pense que ça a été écrit sur 500 ans, donc traduit 36 fois, comment peut-on coller à la lettre d'un texte? J'ai entendu aussi, il me semble que c'est Saint Paul qui dit, la lettre tue. Et je pense que parfois, tordre un texte, comme font certains juifs sur la Bible, ou même le Coran, je pense que nous, on devrait être un peu libérés par rapport aux phrases exactes qui sont dites. Elles sont relatives.
Alors, je suis chrétien évangélique, convaincu de l'inspiration des Écritures. Je ne pense pas que une innovation des évangéliques. Les apôtres s'en réclament. L'apôtre Paul dira « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Je crois que c'est Paul ou Pierre. Et puis Pierre dira autre chose. Ce n'est pas que les évangéliques. Si on prend l'encyclique Dei Verbum, il y a une théologie de l'écriture qui est présentée et un attachement à l'écriture. Et donc je crois que, personnellement, tous les textes de l'écriture sont inspirés par Dieu et sont fiables et dignes de confiance. Dans leurs originaux, on est toujours dans la quête. Donc il y a de la place pour la critique textuelle. Si vous regardez par exemple entre la Bible que connaissait Jean Calvin et la Bible que nous connaissons aujourd'hui, il n'y a pas une révolution de fond en comble, mais il y a sur des points mineurs une meilleure connaissance de ce qu'ont dû être les textes originaux. Et donc, je crois que pour les textes originaux, les auteurs inspirés ont été préservés par Dieu de toute erreur, ce qui ne veut pas dire que ce soit des Ils ont été inspirés, mais ce n'est pas... Alors, ça, des fois, on pourrait dire c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Dieu qui inspire. C'est-à-dire, c'est Dieu qui travaille dans des personnes et qui les accompagne pour qu'elles puissent vraiment parler de sa part. C'est donc un travail prophétique. La parole de Dieu, c'est le Fils. Et cette parole s'est faite chair. Et elle a vécu parmi nous, et nous avons certaines de ses paroles. Maintenant, le défi vis-à-vis de cette écriture, dont je crois et je pense pas être isolé en cela, et tenir une position digne de certains, enfin qui serait dépassée, croire que la Bible est inspirée et voulue par Dieu, le texte qu'il a voulu nous transmettre. Maintenant, le défi, c'est que cette parole, nous devons l'interpréter, la comprendre, la lire. Et c'est là où on rejoint le texte que vous avez dit de Paul. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pas parce que je lis un texte qui est vrai que je le comprends et que je le saisis. Tout à l'heure, j'ai cité cette phrase de l'apôtre Paul, « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. » Jésus-Christ est Seigneur, c'est écrit dans la Bible, et puis on se dit c'est vrai. Mais c'est pas suffisant. Pour arriver à tirer parti de cette parole « Jésus-Christ est Seigneur », il faut l'œuvre de l'Esprit. Et l'Esprit est là pour nous assister dans notre interprétation de l'Écriture et dans notre application de l'Écriture. Et l'Écriture est complexe. En tant que protestant, on veut mettre la Bible à la portée de tout le monde et on sous-estime des fois la difficulté que représente la Bible. Et notre sœur, tout à l'heure, en mentionnant ces histoires de génocide, nous montre bien que tout n'est pas simple dans l'Écriture. Donc il y a tout un travail pour interpréter l'Écriture et pour comprendre l'Écriture, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce travail aussi en Église, et c'est pour ça aussi qu'il y a des ministères qui sont là pour aider à l'appropriation et à la compréhension de l'Écriture. Il y a un exemple de cela qu'on trouve dans la lettre de Jean. Jean dit: vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il s'adresse à cette communauté, dans le premier épître de Jean, chapitre 3, 4 ou 5. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction elle-même vous enseigne. Et puis en même temps, on voit bien, puisque c'est Jean qui le dit, qu'il y a ce ministère de Jean qui vient aider ses croyants à avancer un peu plus. Donc, moi, je crois que l'Écriture est toute inspirée de Dieu. Je ne suis pas le seul. Je rejoins en cela la position officielle de l'Église catholique. Mais je ne suis pas fondamentaliste. Et c'est-à-dire que c'est pas ma compréhension du texte qui est inspirée de Dieu. Et que pour bien comprendre le texte, il y a tout un travail à faire. Un discernement du sens voulu par l'auteur à l'origine, et puis un discernement aussi de ce que ça signifie pour moi aujourd'hui. Par exemple, discerner dans l'Écriture ce qui est plus important que de ce qui est moins important, c'est pas évident. Si je prends le texte, donc la Bible n'est pas le Coran. C'est pas la parole de Dieu qui descend du ciel et qui tombe et qu'on récite. C'est une révélation progressive au fil du temps qui est consignée dans l'écrit et qui permet au peuple de Dieu d'avancer. C'est un peu comme ça que je comprends le sens de l'écriture. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Le monde hébreu lui-même, il a scruté les écritures, on ne peut plus. On ne peut pas dire qu'il l'a lisé au premier degré.
Et pourtant, c'est là où Paul a dit: la lettre tue, c'est fort comme mot. Il n'a pas dit simplement, non, vous savez, il faut creuser un peu. Non, la lettre tue, si vous voulez suivre la lettre, vous êtes mort.
Donc il ne suffit pas d'avoir la Bible.
Il ne suffit pas d'avoir la Bible.
Non, tout à fait.
Et même, je veux dire, même des textes.
Même si comme, on peut faire confiance dans la Bible.
Même des textes, oui. La mer Rouge, par exemple, c'est discuté. Est-ce que la mer Rouge s'est vraiment écartée? Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais
alors,
il ne faut pas prendre au pied de la lettre.
Bah, sur l'exemple de la mer Rouge, c'est intéressant parce que la Bible ne parle pas de la mer Rouge. Et donc, quand on le voit dans le film de Cécile B. DeMille, ou je sais pas, et effectivement, s'il fallait ouvrir la mer Rouge, on se demande comment ça s'est passé. Et puis, elle parle de la mer des joncs. Et donc, il semble plus que ça soit des lacs qu'on a identifiés. Donc, déjà, quand on lit le texte, qu'est-ce qu'on comprend? De quoi est-il question? Alors j'ai une blague là-dessus. C'était un pasteur qui était dans la tradition des protestants libéraux et qui ne croyait pas du tout dans le passage de la mer Rouge. Et alors donc il avait un chrétien alléluia qui était assez pénible parce que il voyait Dieu partout, ce chrétien alléluia. Et donc, il avait une lecture vraiment simpliste de la Bible. Et puis alors, donc, il était en train de prêcher sur le passage de la mer Rouge, et il expliquait qu'en fait, la mer Rouge, c'était juste une petite flaque d'eau qui devait faire 20 cm à peu près de profondeur, et que finalement, c'est au travers de cette flaque d'eau que le peuple d'Israël est passé. Et alors là, son chrétien, alléluia, s'est réveillé. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as noyé toute l'armée égyptienne dans 20 cm d'eau. Il s'est passé quelque chose. Et ce texte nous en parle. Il ne nous donne pas toutes les clés, mais il y a tout un travail d'interprétation pour discerner ce que les textes veulent nous dire. Et puis, ça peut être aussi l'objet de débats.
Alors on est à l'heure prévue pour nous arrêter, c'est pour nous arrêter nécessairement, mais je propose qu'a priori qu'on s'arrête au niveau collectif maintenant, si ça va, pour respecter un peu ce qui avait été proposé. Et puis on est a priori, Charles est là encore, pour si vous voulez continuer à dialoguer avec lui, si vous voulez dialoguer aussi avec moi, je suis disponible, même si voilà, c'est une autre histoire. Je rappelle aussi donc qu'il y a sur la table du fond, donc si vous voulez une Bible que vous n'en avez pas, venez me voir aussi parce que j'en ai quelques-unes que je peux donner, mais vous pouvez laisser votre nom. Si vous souhaitiez continuer le dialogue, mais pas maintenant, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Et puis il y a le flyer de un petit peu si vous êtes intéressé par l'église ici éventuellement, ben voilà, vous avez quelques informations à son propos. Je voudrais remercier Charles, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous, d'avoir partagé son cheminement, si vous voulez. Et puis, bonne soirée à chacun, si vous ne restez pas, discutez. Et même si vous restez, discutez d'ailleurs. Mais bon.
Ancien étudiant de Grenoble, moi aussi.
Oui.